Le 14 février 2005, Rafik Hariri, ancien Premier ministre du Liban et candidat aux législatives prévues en mai 2005, trouve la mort dans un attentat faisant 18 autres victimes. Les représentants du pouvoir baasiste en place en Syrie sont rapidement désignés comme étant les coupables, sinon les commanditaires du meurtre. En effet, l'État syrien entretient une forte domination sur le Liban. Damas maintient sa force armée ainsi que ses services de sécurité sur les territoires du pays du Cèdre depuis l'arrêt de la guerre civile libanaise qui prit fin lors de la signature des accords de Taïef le 22 octobre 1989. Malgré tous les soupçons qui pèsent sur le régime syrien, certains observateurs restent prudents et ne veulent pas écarter l'idée d'une éventuelle manipulation diligentée par les États-Unis ou Israël. Quoi qu'il en soit, la mort de Rafik Hariri déclenche un soulèvement populaire et pacifique d'une ampleur encore inconnue dans l'histoire du Proche et Moyen-Orient. Au lendemain de l'attentat, les manifestations se font de plus en plus pressantes. Les manifestants réclament que la lumière soit faite sur le crime. Ils veulent la vérité, toute la vérité. De jour en jour, la foule devient de plus en plus massive. Les Libanais crient leur colère et leur lassitude. Ils demandent un retour de leur pays à la démocratie et le respect de la résolution internationale 1559 votée par l'ONU en 2004, qui prévoit entre autres le retrait de l'armée syrienne. Face à ce déferlement de mécontentement et d'exaspération, à Beyrouth, le gouvernement libanais pro-syrien d'Omar Karameh est contraint à la démission. Cette première victoire est rapidement suivie d'une autre tout aussi historique. C'est sous la pression populaire ainsi que celle des institutions internationales que la Syrie de Bachar el-Assad se met en conformité avec ce que prévoit la résolution 1559 et annonce le retrait de son armée des territoires libanais. Par cette révolution pacifique, à l'instar de ce qu'a connu l'Ukraine quelques mois plus tôt, le pays du Cèdre connaît depuis quelques mois un vent d'espoir qui souffle aussi sur le Proche et Moyen-Orient. Partout dans le monde, la diaspora libanaise se rassemble et soutient les efforts de ceux qui, dans leur pays, demandent un retour à la démocratie, des réformes de leurs institutions et une reconnaissance de leur souveraineté. À Toulouse, les Libanais se rassemblent sur la place du Capitole. C'est là l'occasion pour eux de discuter, de chanter et de soutenir leurs compatriotes. Oumaïda Elias et Oussam Emroué font partie de cela. Tous les deux militent à leur manière pour un Liban libre. Ils nous parlent tout de suite de la communauté libanaise à Toulouse et de sa mobilisation.
Bonjour, Naïda Elias, je suis libanaise, donc sur Toulouse depuis 16 ans.
Moi c'est Mroué Oussam et j'ai 19 ans, je suis là ça fait 2 ans, à Toulouse.
D'accord, donc on a beaucoup vu la communauté libanaise ces derniers temps dans les rues de Toulouse et manifester. Alors avant de parler de la situation que connaît aujourd'hui le Liban, j'aimerais que vous me présentiez un petit peu la communauté libanaise aujourd'hui en France et plus particulièrement à Toulouse.
La communauté libanaise sur Toulouse, elle est estimée à peu près 2000 à 2500 personnes. C'est en très grande partie des médecins, des ingénieurs, beaucoup d'étudiants dans les pôles universitaires de Toulouse. Et rarement, c'est l'immigration libanaise sur Toulouse, elle a rarement été une immigration pour le travail en tant que telle. D'habitude, on arrive sur Toulouse pour faire ses études et on y reste. Voilà, donc grosso modo, vous avez sûrement dû remarquer aussi une très grande concentration de restaurants, kebab, shawarma et compagnie. Il y a une association franco-libanaise, je laisse Hossam vous en parler.
D'accord, donc en fait je suis le président de cette association-là avec Mademoiselle Léa Khalaf. On organise souvent des soirées libanaises, des réunions. Donc pour essayer de réunir cette communauté qui est bien intégrée donc, dans la société française.
Euh,
Alors que les manifestations s'enchaînent au Liban, ici à Toulouse, la communauté libanaise se donne une nouvelle fois rendez-vous au centre-ville. À l'aide de bougies, les manifestants dessinent sur le sol de la place du Capitole l'arbre de la nation libanaise, un cèdre, emblème de leur pays d'origine et symbole du pacifisme de la révolution actuelle. Les Libanais de Toulouse veulent faire preuve de solidarité avec leurs compatriotes qui se mobilisent là-bas pour que renaisse la démocratie.
Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de faire?
On est en train de reproduire le cèdre du Liban en bougie pour lutter pour la sortie de la Syrie du Liban.
Et là, vous allumez des bougies?
Ouais, mais il y a le vent qui ne nous aide pas.
Ce soir, vous manifestez en soutien au peuple libanais.
Voilà, pour qu'ils sentent qu'il y a une mobilisation internationale dans toutes les villes. On fait notre possible.
Qu'est-ce que vous espérez pour le Liban aujourd'hui?
Qu'il soit libre, souverain et indépendant.
C'est un espoir pour l'ensemble du Proche-Orient?
Bien sûr, pour les peuples arabes surtout. Comme on le sait, ils sont un peu... les gouvernements arabes ne représentent pas le peuple. Donc un message à tout le monde.
Bien que rassemblée pour l'occasion, la communauté libanaise n'a pas l'habitude de rester dans l'entre-soi, raison de plus pour s'étonner de la réactivité dont ont fait preuve de nombreux jeunes Libanais à l'annonce des rassemblements en solidarité avec leur peuple. Une ferveur qui semble avoir étonné les plus anciens, selon Oumaïda Elias.
Surpris pour les anciens de la communauté, quand je dis anciens de la communauté, ceux qui sont là depuis plus que 30 ans, donc ceux qui n'ont pas vraiment connu la guerre, qui sont arrivés avant la guerre et qui ne sont jamais revenus au pays, ils ont été extrêmement surpris puisqu'ils n'ont plus la connaissance du terrain comme ceux qui habitent encore sur place ou les jeunes qui viennent d'arriver. Les jeunes qui viennent d'arriver ont réagi très très vite, c'est-à-dire qu'ils ont pris les choses en main et ils ont mis sur pied plusieurs manifestations, deux manifestations en l'espace de 15 jours, ce qui est extrêmement important et assez rare sur Toulouse pour le signaler, parce que les Libanais sur Toulouse sont tellement bien intégrés dans le tissu social. Donc le fait d'avoir réussi à les mobiliser sur deux manifestations en 15 jours, ça dit à quel point ils ont été émus, secoués. Et en même temps, il y a un vent d'espoir, je crois, qui a soufflé sur eux. Et ça leur a donné envie de s'exprimer.
Oui, donc comme Elia Ounaïda disait, ça a été le choc. Donc non seulement pour les Libanais, mais je pense pour les Français aussi, donc pour tout le monde. Et ce qu'on peut dire, nous, dans le cadre de l'association, on devait organiser une soirée, donc là, dans la semaine. Et puis les gens, donc là, ils n'arrivent plus à sortir. C'est-à-dire que voilà, ils préfèrent organiser des rassemblements, des manifestations, donc pour exprimer un petit peu leur désarroi.
C'est vrai qu'en participant la dernière fois à la manifestation, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de jeunes. Comment ça s'explique, ça?
Mais si vous voulez, la situation économique au Liban, elle est tellement mauvaise, elle est désastreuse même, à tel point que les jeunes, à la fin de leurs études, une fois qu'ils sont ingénieurs ou bac plus 5, ils n'ont aucune possibilité de travailler, pas d'ouverture. Donc ils préfèrent venir en France ou à l'étranger, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pour continuer leurs études. Donc la plupart des jeunes que vous avez vus, c'est souvent des jeunes qui sont là pour faire des thèses. Donc c'est des étudiants en troisième cycle. Il faut dire aussi qu'il y a une très ancienne tradition de partenariat entre le Liban et les universités toulousaines, aussi relayé par plusieurs professeurs d'origine libanaise à l'université Paul Sabatier et au Mirail, et par des jumelages et des correspondances entre les deux universités.
Comme à Beyrouth, ce sont les jeunes qui prennent les initiatives et qui expriment un petit peu leur opinion.
Moi je suis français et ce soir je suis venu en solidarité avec le peuple libanais puisque depuis 15 ans maintenant il est totalement occupé par les Syriens. J'étais cet été au Liban et dans tous les endroits de toutes les villes on voit l'armée syrienne et le plus frappant c'est devant le palais du Premier ministre il y a deux drapeaux libanais, deux drapeaux syriens, ce qui montre qu'il n'a plus du tout d'indépendance. Il y a deux semaines, la Syrie, il semblerait que ce soit elle, a assassiné l'ancien Premier ministre libanais, ce qui montre le pouvoir qu'ils peuvent avoir. Et aujourd'hui, il faut se mobiliser pour que le Liban soit enfin libre, tout simplement. Et puis aussi pour montrer qu'il y a un grand message d'espoir, puisque jusqu'à il n'y a encore pas longtemps, il peut y avoir des divisions entre le Libanais chrétien et le Libanais musulman. Et depuis cet événement, depuis le 14 février, c'est totalement fini. Les Libanais sont totalement réconciliés et maintenant c'est les Libanais pro-syriens, les Libanais anti-syriens, les Libanais qui veulent être indépendants. Et la lutte maintenant se fait à ce niveau-là. Et j'espère que les Libanais retrouveront bientôt leur indépendance. C'est pour ça qu'on est là. Parce que d'une part, ça fera une démocratie de plus au Proche-Orient. Comme on les compte sur le doigt d'une main, c'est quand même important. Et enfin, c'est aussi une grande importance parce que le Liban est un pays relativement occidentalisé, bien plus que d'autres pays de la zone. Et je pense que ça permettra de réouvrir beaucoup d'échanges avec l'Europe et la France en particulier dans les années à venir, s'il retrouve son indépendance.
La soirée avance, les manifestants sont de plus en plus nombreux. Les chants entonnés semblent aider les organismes à lutter et affronter le froid cinglant de cette soirée d'hiver. On piétine, on discute, en se frictionnant les mains, les cols des blousons sont remontés jusqu'au bout du nez. Quand arrive une nouvelle qui réchauffe le sang, Bachar el-Assad, le président syrien, vient d'annoncer dans une dépêche AFP qu'il se dit prêt à retirer son armée du Liban. Gérard Bapt, député socialiste de Haute-Garonne et président du groupe d'amitié franco-libanais à l'Assemblée nationale, vient à la rencontre des manifestants leur annoncer la bonne nouvelle.
C'est l'annonce du retrait des forces syriennes. Ça, c'est un jour historique. Reste bien entendu à obtenir maintenant un calendrier et à faire en sorte que ce soit non seulement les forces armées, mais aussi les services de renseignement qui se retirent vers la Syrie. Et qu'à partir de là, une nouvelle page de l'histoire entre le Liban et la Syrie s'ouvre. Je pense que la France et l'Union européenne, qui doivent être des amis des peuples libanais et syriens, doivent pouvoir accompagner cette nouvelle page vers la paix, le développement, dans le cadre de relations équilibrées entre le Liban, la Syrie d'une part, le Liban et la Syrie et l'Union européenne et la France d'autre part.
Dans le discours de Assad cet après-midi, Jumblat a répondu qu'il manque encore le calendrier de ce retrait. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'il était clair ce discours ou il manquait toujours quelque chose ?
Moi, ce que j'ai entendu du discours de Bachar el-Assad, c'est qu'il était clair puisqu'il parle de regroupement dans un premier temps, retrait à la frontière dans un second temps, les modalités devant être décidées par le comité militaire libano-syrien qui doit se réunir la semaine prochaine. Et donc il doit y avoir une rencontre entre le président Lahoud et le président Assad pour déterminer les modalités de ce retrait. Et il est effectivement important que ce retrait donne un calendrier du redéploiement et puis du retrait vers la frontière. Et il est important aussi, bien entendu, qu'un gouvernement d'union nationale puisse être rapidement constitué de manière à ce qu'il puisse guider le Liban vers la tenue d'élections législatives qui soient dans le cadre d'une loi électorale qui n'est pas encore votée et qui soit satisfaisante pour l'ensemble des sensibilités politiques, de manière à ce que demain nous ayons une assemblée nationale libanaise souveraine, librement choisie par les Libanais et qui puisse librement et souverainement décider du gouvernement à mettre en place et des politiques à mettre en œuvre. En ce qui concerne la Syrie, j'espère que les réformes tant promises au moment de l'avènement au pouvoir de Bachar el-Assad puissent enfin voir le jour, puisqu'il semble que la volonté initiale du président Bachar el-Assad ait été entravée par des forces de conservation, héritées sans doute d'une période post-stalinienne aujourd'hui totalement révolue.
Et aujourd'hui, est-ce que la Syrie n'est pas dans l'impasse aujourd'hui ? On a l'impression que c'est un pays quand même qui est sous pression.
La Syrie, le régime syrien s'est mis lui-même dans l'impasse en ne faisant pas les ouvertures, en ne procédant pas aux réformes administratives et politiques internes qu'il lui fallait faire. Les grands espoirs qui avaient été mis dans Bachar el-Assad ont été déçus. Et le printemps de Damas a duré très très peu de temps au moment de l'avènement de Bachar el-Assad. Et ensuite, c'est la chape pesante d'un régime qui est immobile, qui est un régime autoritaire et qui doit aujourd'hui permettre au peuple syrien désormais de choisir lui aussi librement le cours de son destin.
Quel visage peut avoir le Proche-Orient aujourd'hui avec un retour d'une vraie démocratie au Liban ?
Le Liban est un point exemplaire parce que c'est une charnière entre l'Union européenne et le monde méditerranéen, parce que c'est un lieu de coexistence de cultures, c'est un pays arabe ouvert, c'est un pays arabe qui sait faire coexister ses différentes communautés, qui doit désormais faire lui-même d'ailleurs aussi ses propres réformes, puisque y compris celles qui avaient été prévues par les documents de Taif ne sont pas encore réalisées intégralement. Et je pense que cette révolution pacifique du peuple libanais fera date dans l'histoire du Moyen-Orient, au même titre d'ailleurs que celle qui s'est produite en Ukraine fera date. À la lumière d'ailleurs de ce qui vient aussi de se produire en Ukraine avec les responsables de l'assassinat du journaliste ukrainien qui ont été désormais poursuivis, je pense qu'il faut absolument aussi que les responsables et les auteurs de l'attentat qui a coûté la vie au président Rafik Hariri soient recherchés, retrouvés et jugés.
Bien que l'assassinat de Rafik Hariri fût un élément déclencheur, quelques signes avant-coureurs pouvaient donner aux observateurs le degré d'exaspération et de lassitude dans lequel se trouvait la population libanaise depuis un certain nombre d'années. Le feu de la révolte couvait donc, certains iront même jusqu'à dire que la politique américaine au Proche et Moyen-Orient ne serait pas complètement étrangère à certaines prises de conscience dans cette zone géographique du globe. Pour Oumaïda Elias et Oussam Emroué, qui se sont rendus l'été dernier au Liban et avaient ressenti les premières tensions, pour eux donc, les conditions pour un soulèvement populaire au Liban étaient réunies.
Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs ?
En fait, on peut dire ça. Nous, personnellement, cet été, on était au Liban. Donc, surtout chez la jeunesse, on sentait donc cette envie. Donc, on a remarqué que ce qui s'était passé en Ukraine, en Géorgie, avait fait un petit écho quand même au sein donc de la jeunesse libanaise. Et on sentait qu'ils attendaient une petite brèche pour exploser. Donc je pense que l'assassinat de M. Rafik Hariri a été le signe donc avant-coureur.
Oui, tout à fait, parce que je crois que le ras-le-bol était là depuis un petit moment. Et la situation économique, elle s'est tellement dégradée ces dernières années. Et surtout, après avoir reconduit M. Larkoud au pouvoir pour le président de la République pour 3 ans, ça, je crois, ça a vraiment aussi déclenché une fureur chez les Libanais. Parce que la Syrie, elle a bafoué quand même une volonté qui était assez affirmée chez les Libanais de ne pas toucher à la Constitution. Donc le fait d'avoir transgresser cet interdit, quelque part, ça a vraiment mis les Libanais en colère. Et la presse libanaise et les médias ont eu la liberté, une certaine liberté cet été. Et ils ont dit des choses qu'on n'avait pas encore l'habitude d'entendre, hein, avec une liberté qui était assez affirmée. On croit en un Liban libre. C'est un rêve. Un fou visionnaire, un jour, a dit « j'ai un rêve ». Et bien, moi aussi, j'avais un rêve. Et ce rêve, je l'ai vu se réaliser ces dernières semaines. J'ai vu les musulmans et les chrétiens, les druzes ensemble défiler. Je les ai vus prier ensemble. Je les ai vus pleurer ensemble. Je les ai vus crier ensemble. Je peux dire qu'aujourd'hui, mon rêve est réalisé. Le suivant, Enfin, le plus grand des rêves, c'est le jour où mon pays sera libre.
Je voudrais juste terminer sur une phrase de Jean Jaurès, en fait, et qui stipule que la République, c'est le droit à tout homme, quelle que soit sa croyance confessionnelle, à avoir une part de sa souveraineté. Or, le Liban est une république, donc la souveraineté, c'est pour bientôt.
La première partie de cette émission s'achève. Depuis l'enregistrement de ces témoignages, la situation au Liban a bien sûr évolué. Le Premier ministre démissionnaire vient d'être remis en fonction par le président Karamé. Le Hezbollah, le parti libanais le plus proche de la Syrie, a appelé à manifester massivement contre la résolution 1559 et contre une éventuelle ingérence américaine dans la vie politique libanaise. Nous discuterons dans la seconde partie donc de cette émission avec Oumaïda Elias et Oussam Emroué sur les questions historiques, politiques, géopolitiques et géostratégiques que soulèvent les derniers événements libanais.